Ok, Ésaïe chapitre 5, et on va lire les versets 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, et il y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épis y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber l'appui sur elle. La vigne de l'Éternel, les armées, c'est la maison d'Israël. Les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Voilà. Je pense que on pourrait, dans le sens du Nouveau Testament, appeler ça une parabole. Une parabole, parce que c'est une histoire qui illustre autre chose. L'histoire est tellement claire que je n'ai pas besoin de faire tout un tableau. L'histoire, c'est la vigne que ce bien-aimé, qui est en fait le Seigneur, dans certaines traductions, c'est marqué un poème pour mon ami et à son sujet. Donc, Ésaïe propose ce poème qui parle d'une vigne où le vigneron a tout fait pour que cela produise de bons fruits. Donc il a mis une haie autour pour empêcher peut-être les bêtes sauvages de venir brouter, les chèvres ou je ne sais pas quoi. Et il a bâti une tour de guet. J'ai vu ça une fois en Israël, une vigne qu'ils avaient refaite comme à l'époque, donc quelqu'un qui veillait pour empêcher les personnes ou les animaux de venir détruire la semence ou la vigne. Il y avait une cuve, il a enlevé les pierres, il a tout fait pour que la vigne produise du bon fruit, de bons raisins, mais c'est le contraire qui est arrivé, de mauvais fruits. Donc il demande que Jérusalem et que les hommes de Juda soient témoins. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? En espérant qu'ils disent en quelque sorte, ah bah bon, il n'y a rien à espérer, il faut le détruire. Et c'est à ce moment-là que, comme d'autres paraboles, Ésaïe était en train de dire, mais exactement, il faut la détruire. Il faut, ça donne rien, donc qu'est-ce que je vais faire? Et c'est en quelque sorte le jugement dont David a parlé tout à l'heure, ce jugement qui est là tout au long de ce prophète Ésaïe, ce jugement qui est miroité s'ils ne se convertissent pas, s'ils ne se repentent pas, de partir, d'être obligés de partir, d'être exilés, déportés à Babylone. Ce qui s'est fait un siècle plus tard. Donc, la question est tellement claire, et la réponse est tellement claire, qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour expliquer la parabole. J'ai dit, bon, j'attendais la justice, et ce sont des cris de détresse, j'attendais la droiture, et c'est du sang versé. Voilà. Mais à partir de là, je me suis dit, cette idée d'Israël comme vigne est reprise aussi au Nouveau Testament, également, parce que, par exemple, dans Jean 15, on compare aussi les chrétiens au sarment d'une vigne. Donc, plutôt que d'insister de nouveau sur la question du jugement, qui revient tout au long d'Ésaïe, je me suis dit ce matin, on va parler plutôt du fruit. Alors, quel est le fruit que le Seigneur attend et quel est le fruit qu'il attend de nous en tant que chrétiens? C'est pour ça que je dis, on se rassemble pour essayer d'être meilleur. J'espère en sortant d'ici, en poussant la porte tout à l'heure, on sera encore plus convaincu de ce que le Seigneur veut voir dans notre vie comme fruit. Oui. Je vous invite à trouver Jean 15, à partir du verset 1. Donc c'est ce texte qui parle des chrétiens qui doivent porter du fruit. Je pense que la première chose, c'est simplement lire un certain nombre de textes en demandant au Seigneur de nous convaincre, parce que, à la limite, qu'est-ce qu'on peut dire pour parler de ce fruit, sauf que de lire ce que le Seigneur nous dit et de se dire, mais ok, comment je vais faire ça dans ma vie? Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Donc il y a beaucoup de choses dans ce texte. Le fond est clair, c'est que, encore une parabole, on va dire, Jésus est le cep, donc les racines et le tronc en quelque sorte, et nous sommes les branches ou les sarments. Et nous sommes attachés à Christ, et donc le but de chaque sarment, c'est de porter du fruit. Seulement, si pour porter du fruit, on veut le faire tout seul, en nous détachant du cep, bon, on n'arrivera pas. Donc il faut rester, il faut demeurer en lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il met en parallèle au verset 8, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc une façon de demeurer en Christ, c'est aussi de demeurer dans la parole et de se laisser convaincre tout le temps des paroles de Dieu, donc dans la Bible. Donc c'est une façon de demeurer en Christ, c'est de demeurer dans sa parole. Et c'est ainsi que l'on sera, verset 8, ses disciples. Donc les personnes qui apprennent, les apprentis du Seigneur, donc les personnes qui apprennent. Mais ça ne va pas, on va dire, sans une certaine souffrance. Il y a des souffrances de la vie, mais il y a une certaine souffrance qui est mentionnée au verset 2, c'est qu'il faut émonder. Donc ça veut dire tailler la plante. J'en ai déjà parlé une fois récemment de comment Marie, elle a beaucoup de plantes d'intérieur et parfois elle taille, mais ça ne va jamais repousser. Mais finalement, non, ça produit plus de vigueur, plus de sève qui passe. Et donc, le Seigneur veut faire la même chose avec nous. Il va tailler certaines choses de notre vie pour les enlever. Il va nous émonder. Ça peut faire mal, mais c'est mieux. Parce que comme ça, on sera plus vigoureusement attaché à lui pour porter ce fruit. Et c'est ainsi, il le dit deux fois dans ce texte, que son Père sera glorifié. Le but, c'est pas uniquement que les gens disent « Ah ben voilà, cette personne, c'est vraiment un type qui est bien, Et c'est aussi de dire, non, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu et qui glorifie le Père. Ça c'est notre but. Puis, une autre chose dans ce texte, avant d'en voir d'autres, s'il dit bien, au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et là encore, c'est important de bien saisir le sens de cela, parce que sinon, on risque d'être trop passif en disant « c'est le Seigneur qui doit tout faire ». Et je pose souvent la question, si vous l'avez déjà entendu, tant pis, je repose. Est-ce que ça veut dire « avec moi, vous n'avez rien à faire » ou « avec moi, vous pouvez tout faire » Réfléchissez bien. Vous pouvez téléphoner à une personne pour vous aider à avoir la réponse. Non. La réponse, c'est B. Avec moi, vous pouvez tout faire. Et d'ailleurs, Paul le dit en toutes lettres dans Philippiens 4, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, ce n'est pas à notre gloire, mais c'est pour dire que les maths du Seigneur ne sont pas les nôtres, parce que c'est 100% Dieu et 100% nous, ensemble. Donc nous sommes collaborateurs, qui est un mot utilisé d'ailleurs dans 1 Corinthiens. Le mot en grec c'est synergia, qui a donné le nom de l'association que nous avons créée de action sociale et culturelle. Donc le but c'est de rester attaché à lui, il va nous donner la force, mais nous devons quand même le vivre. On n'est pas des marionnettes passives. Donc, on est aussi des acteurs de notre vie. D'autres évangiles parlent aussi de ce fruit. Donc, on va passer à la diapositive suivante, qui nous aide aussi à comprendre toute la question de fruit. D'abord, dans Matthieu 3, 8, ce sont les paroles de Jean-Baptiste. Et dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Du fruit digne de la repentance. Cela veut dire que si nous sommes chrétiens, nous nous sommes repentis du mal, du péché que nous avons commis. Parce que le salut, c'est pour qui ? Je pense aux paroles de Jésus, repentez-vous et croyez. Donc il faut reconnaître qu'on est pécheur et accepter le pardon. Donc la repentance veut dire je veux plus faire ça, je veux agir autrement. Donc ce sont du fruit digne de la repentance. Et comme on l'a dit et on l'a redit depuis des décennies dans nos églises protestantes évangéliques, nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais pour les bonnes œuvres. Il ne faut pas confondre. Nous sommes sauvés par la grâce. On ne peut rien faire pour que Dieu nous aime davantage, sauf reconnaître notre besoin de salut. Par contre, une fois qu'on lui appartient, il veut que l'on pratique les bonnes œuvres préparées d'avance. Qui peut me citer ce verset ? J'aime bien poser. Voilà, Éphésiens 2:10. À mon point. Éphésiens 2:10. Des bonnes œuvres préparées d'avance pour nous. Donc, le fruit digne de la repentance. Et puis, Matthieu 18, la parabole du semeur. Pourquoi le semeur ? C'est pas Matthieu 18. Hein. C'est Matthieu 13, excusez-moi. Je me suis dit tout de suite que c'est pas ça. Matthieu 13, la parabole du semeur. Pourquoi un semeur va semer dans les champs ? Parce qu'il veut une moisson, il veut une récolte. Sinon, ça ne sert à rien. Et vous connaissez assez bien, je pense, cette parabole, pour que je ne sois pas obligé de tout raconter. Mais le but, le verset 8 le dit, certaines... une autre partie de la semence tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et Jésus l'explique également au verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et puis dans Luc 6, en changeant un petit peu l'illustration, ce n'est plus la vigne, ce n'est plus la semence, c'est maintenant l'arbre. Mais c'est la même pensée, Luc 6, 43 à 44. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais fruit, arbre qui porte du bon fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, le Seigneur veut que l'on soit un bon arbre qui porte du bon fruit. Jusque-là, on est dans l'exhortation de porter du fruit. Mais là, la question c'est quel est le fruit qu'il faut porter? Quel est ce fruit? Et je dirais, à peut-être un verset près, il y a un verset qui peut-être ne va pas dans le sens que je veux dire, que tous les autres versets du Nouveau Testament parlant du fruit parlent de notre caractère, de notre façon de vivre en tant que chrétien. Ce n'est pas du fruit dans le sens de conversion, dans notre témoignage, c'est du fruit dans le sens de notre caractère, qui doit être de plus en plus conforme à celui de Jésus. Alors, on va voir deux choses maintenant. Romains 6, 22 dit, « Vous avez pour fruit la sainteté. » Et on veut être saint. Et le mot que l'on utilise souvent pour le processus, c'est la sanctification. Et vous rappelez que la sanctification, c'est un processus. Notre justification, c'est instantané. On est justifié ou pas. Notre glorification est instantanée, soit au moment de notre décès, soit au moment du retour du Seigneur. Donc c'est instantané encore. Mais entre les deux, il y a toute notre vie de processus de sanctification. Et donc, on veut être saint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être saint? C'est peut-être pas un mot qui a bonne presse, parce qu'on voit des choses très négatives. On n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela. On devient la personne qui porte des jugements. J'étais même une fois avec personne, quelqu'un, il y a bien des années à Nancy, on est allé se promener un dimanche après-midi, et cette personne a dit, « Qu'est-ce que ça me pèse, on était dans un parc, de voir des gens s'amuser le dimanche. » Comme si c'était l'amusement en tant que tel était mauvais. Bon, que les gens disent, « Ça me pèse que les gens ne font pas appel à Dieu, oui. » Mais s'amuser sainement dans un parc, il n'y a pas de problème. La sainteté, ce n'est pas ça. La sainteté, c'est positif, et c'est ça qu'on va voir. Alors, j'ai divisé cela, donc le fruit, en deux parties, selon les textes. Une première partie, c'est le fruit, c'est faire ce qui plaît à Dieu. Donc, des actions justes. Mais c'est aussi, le fruit, c'est la façon d'agir qui plaît à Dieu, un caractère conforme à l'exemple de Jésus. Donc, à la fois le fruit, c'est ce que l'on fait, mais aussi c'est la façon dont on le fait, selon ces différents textes. Alors, on va regarder ça. Éphésiens 5 et le verset 9. Je vais commencer la lecture au verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez, vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, on a déjà un petit peu la manière avec la bonté, mais la justice et la vérité, ce sont des actes. La justice, c'est tout acte en conformité avec une éthique qui reflète le caractère de Dieu. Donc on a un certain nombre de commandements, les 10 commandements par exemple, et d'autres qui nous montrent ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et le Seigneur veut que l'on agisse de façon juste, avec honnêteté aussi, en respectant les autres. Et aussi la vérité, parce que dire la vérité n'est pas évidente dans notre société. C'est pour ça qu'il faut aussi mettre la façon de faire qui va avec. Rappelez ce verset qui dit « Disons la vérité dans l'amour », Éphésiens 4. Mais de dire la vérité est importante parce que c'est le diable qui est le menteur et le père des mensonges. Et presque tout péché en découle quelque part, depuis le jardin d'Éden. Donc le fait de ne pas dire les choses qui sont vraies. Et on veut tout le temps tordre la vérité pour que cela nous arrange en quelque sorte. Et autour de nous, moi je trouve que le mensonge est de plus en plus courant. Donc nous, on est appelés à dire des choses qui sont vraies. Philippiens 1, également, versets 9 à 11. On est toujours dans le faire. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. De plus en plus. En connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Donc le fruit, c'est la justice, encore. Ce qui est juste, ce qui est bon devant Dieu. Mais comme j'ai dit, il y a aussi la façon de faire. Et si on ne met pas les deux ensemble, on risque d'être des justiciers, en quelque sorte purs et durs. L'amour du prochain rentre en ligne de compte. Comme on dit toujours, on était appelé à dire la vérité et non pas les quatre vérités à quelqu'un, qui n'est pas la même chose. Donc, Jacques 3, 18... une mention du fruit. Donc, je commence au verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice, donc Jacques revient à cette notion de justice, justice comme fruit, est semée dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. Donc la manière de le faire est importante. On veut que les choses soient justes, mais on veut en même temps vivre dans la paix, tant que ça dépend de nous. Vous allez me dire, c'est impossible. Parce que dans tellement de situations, si on veut être juste, ça risque de créer des divisions, des problèmes, etc. Je suis d'accord. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde anormal, pécheur, où tout ce qui est juste va ou risque de provoquer des réactions de la part des autres. En même temps, la parole nous dit, oui, c'est vrai, mais il est tout aussi important d'être ceux qui cherchent à procurer la paix, comme une valeur qui vient de Dieu aussi. Et donc, dans notre société actuelle, chercher la justice doit se faire également par la paix. Je pensais à ça hier, parce qu'il y a de nouveau une manif de mariage pour tous, c'est ça, dimanche prochain. Et donc toutes les manifs qui ont été organisées se sont faites dans la paix, ce qui n'est pas toujours le cas des autres. Donc il y a des manifs qui ne sont pas dans la paix. Donc je pense qu'il est possible de dire les choses clairement, mais en même temps d'essayer de bâtir la relation avec la personne et de le faire dans la paix. Bon, on est là, c'est un tiraillement, parce que finalement, c'est pas si facile que cela. Mais c'est ça que le Seigneur nous demande. Le fruit de la justice est semé dans la paix. Et puis dans Galates 5, qu'on pourrait presque appeler, parce que c'est le fruit au singulier, le bouquet final, on va dire, toute cette liste du fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, je vais le lire, c'est Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cela? Parce que je cherche à vivre cela dans ma vie. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en tant que chrétien, on cherche de façon délibérée à vivre d'une certaine façon. Alors que je pense que malgré tout, il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne cherchent pas à savoir comment vivre, sauf, c'est comment je peux mieux trouver mon épanouissement, comment je peux, et le « je » est au centre. Et c'était très intéressant dans la soirée passerelle, donc j'avais un garçon avec dans mon groupe de discussion, et on parlait du fait d'aimer son prochain comme soi-même. Et sa réponse, c'est « mais si tout le monde fait ça, personne ne bouge, parce qu'on a peur de faire du mal aux autres. » Je dis « moi, c'est pas ça. » C'est pas ça. Mais c'était marrant que lui, il avait réinterprété dans sa tête ce verset pour dire « non, on s'occupe d'abord de soi. » Bon, il a dit « sinon, le monde n'avance pas. » Il dit « non, on essaie quand même de faire avancer les choses, mais en aimant son prochain comme soi-même. » Alors, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je dirais tout simplement ceci en conclusion, parce que on pourrait développer cela et en long et en large, peut-être dire deux choses. Première chose, ce qui est intéressant parfois, c'est que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'histoires. Beaucoup de paraboles et beaucoup d'histoires vraies. Et en partie, c'est pour illustrer ces choses. Parce que sinon, ça reste un peu abstrait. Et donc, ça montre pourquoi il y a tellement d'histoires dans la Bible. Et parfois, je crois qu'on peut aussi raconter nos histoires, on appelle ça des témoignages, de comment on a pu vivre à certains moments, d'une certaine façon, de cette façon-là, et tout ce qui en a découlé de positif. Et la deuxième chose, c'est la vraie conclusion, c'est tout simplement de dire ceci, en lisant ce dernier verset et les autres, est-ce que nous sommes vraiment convaincus au plus profond de nous-mêmes que c'est la meilleure façon de vivre? Et qu'on cherche vraiment à mettre cela en pratique. Parce que ça s'engage beaucoup de choses hein, dans notre vie, de porter du fruit de la justice et de la vérité avec la manière remplie d'amour, de joie, de paix, etc. Mais je crois que c'est important. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en tant que chrétien, on a facile de dire, oh, tout va mal, tout va mal dans notre monde, et encore j'ai entendu ceci à la radio, et encore j'ai entendu cela à la radio, j'ai vu ça à la télé, j'ai vu ça sur Internet, j'ai lu ça sur le journal, ah, tel ou tel voulait proposer telle ou telle loi, etc. Je suis obligé de revenir un petit peu sur cela la semaine prochaine, parce qu'il y a le verset qu'on va commenter, ils appellent le mal bien et le bien mal. Donc je ne dis pas qu'il faut faire le contraire. Mais, qu'est-ce qui va convaincre les gens autour de nous que nous avons raison? Ce n'est pas à force de se plaindre. Ce n'est pas à force de faire des reproches, de condamner. C'est lorsque les gens disent, on le fait, mais on est heureux. En tant que chrétien. Et on porte ce fruit-là de la joie et de la paix. Et cela va parler beaucoup plus. On n'est pas d'accord, mais avec Dieu, je suis bien. Je pense à un ami, quand il s'est converti, sa famille n'était pas tout à fait contente, mais au bout d'un certain nombre de mois, sa mère a dit, mais j'ai constaté que maintenant tu es heureux. Et donc, c'est bien. Continue comme ça, mon fils. Tu es heureux. Donc, vivons dans l'amour, la joie et la paix, parce que c'est glorifier Dieu et c'est mieux vivre les quelques années que nous avons sur la terre. Si on prend trop à cœur le mal et on ne l'a pas en équilibre avec le fait d'être heureux et de vivre dans l'amour et la joie et la paix, on n'apporte pas vraiment la parole de Dieu dans le monde. Et les gens voient notre façon de vivre beaucoup plus qu'ils n'entendent nos paroles dans un premier temps. Voilà la petite exhortation que je m'adresse à moi. Je vous étais à vous ce matin, cherchant vraiment à porter beaucoup de fruits de l'esprit pour la gloire de Dieu.